Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Vie d'infirmière. Aujourd'hui, je suis contente d'accueillir Ambre qui a déjà participé à un témoignage sur le blog Charlotte K. Et donc, du coup, tu reviens sous le format podcast aujourd'hui. Bienvenue à toi, Ambre.
Merci beaucoup. Je suis super contente d'être là, de participer à ce podcast. Et merci à toi de m'avoir invitée.
Avec plaisir. Ambre, tu as un très beau projet, enfin un projet qui est très, très concret maintenant.
Oui.
Tu as une belle reconversion. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, tu es infirmière de formation. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de combien de temps de diplôme, déjà, tu t'es posé des questions? Et comment s'est passé le cheminement jusqu'au moment où tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire autre chose?
Alors, moi, je suis infirmière diplômée de 2009. Donc, ça va bientôt faire 14 ans. Déjà, ça passe vite. J'ai travaillé dans diverses structures, aussi bien en milieu hospitalier qu'en clinique privée ou même en HAD, en extra-hospitalier. J'ai beaucoup travaillé en réanimation. C'est vraiment ce qui m'animait au début quand j'ai commencé ma carrière. Et puis, au bout de 10 ans, après avoir pas mal changé de structure et de service, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je prenais un poste, j'étais lassée. Alors, lassée pas forcément de mes collègues ou du travail, mais plutôt des conditions. Souvent, je m'ennuyais au bout de quelques mois et j'avais déjà l'impression d'avoir tout vu. Du coup, je me suis dit, il faut peut-être que je fasse autre chose, que je réfléchisse à ce que je veux faire, à mon avenir. Est-ce que je change totalement de métier? Est-ce que je passe sur autre chose, comme du libéral ou de l'extra-hospitalier, du scolaire? Je savais vraiment pas du tout. Donc, j'ai décidé de quitter mon CDI pour faire des vacations et de l'intérim, pour pouvoir enlever tout le côté un peu négatif du métier, donc c'est-à-dire pouvoir choisir où je travaille, avec qui, quels jours et quels horaires. Donc déjà, cette étape-là a été un grand soulagement pour moi. Et puis, pendant cette étape, c'était aussi le moment de réfléchir sur ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait des listes. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie professionnellement? Et qu'est-ce que j'ai aussi envie dans ma vie privée? Et puis, j'ai essayé de faire des matchs, un peu comme sur Tinder ou certaines applications. Et je me suis dit, ça match. J'aime le voyage. Je suis plutôt douée en organisation, de par le métier d'infirmière et tout le côté relationnel aussi acquis avec le métier d'infirmière. Et puis, l'envie vraiment d'être indépendante, de travailler pour moi, et de pouvoir adapter mon travail à ma vie privée. Et voilà, et c'est comme ça que je suis devenue travel planner depuis 2 ans.
Trop chouette. Et combien de temps ça a pris justement ce moment où tu as fait tes premières listes avec toutes tes idées et le moment où vraiment l'idée est venue à toi?
Je pense qu'il y a eu quand même à peu près 6 mois de réflexion, de recherche aussi, parce que, c'est cool. Le voyage, c'était quelque chose qui ressortait dans mes recherches, dans mes listes. Mais comment je l'adapte? Comment je l'adapte? Comment je me forme? Comment je l'adapte à ce que je veux faire? À être indépendante. Et il y a bien eu, je pense, 6 mois de recherche, de me poser des questions, de savoir si j'étais dans la bonne direction ou pas. Et puis après, je suis tombée sur une formation et puis j'ai enchaîné et la machine était lancée en fait.
Ouais.
Donc, on peut toujours faire marche arrière, mais j'étais lancée et je me suis dit, allez, je vais jusqu'au bout du truc et puis on verra.
C'est canon. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme formation pour devenir... Alors, on dit travel planner en anglais, il y a un nom français déjà ou pas?
En français, c'est organisatrice de voyage.
D'accord, ok. Et du coup, tu as une formation pour ça? Ou une ou plusieurs?
Alors, j'ai fait une formation qui est privée, qui n'est pas diplômante ni certifiante, mais qui permet d'acquérir les bases du tourisme, la relation client, la communication et vraiment tout ce qui est législation autour de ce métier, qui est un métier nouveau, un peu comme les wedding planners il y a 10 ans. Maintenant, c'est transposé au métier du voyage avec les travel planners ou organisateurs de voyage. Donc, j'ai fait cette formation sur 4 mois. Et puis après, je me suis lancée directement en février 2021, en plein Covid.
Ouais.
On adore.
Comme quoi, il n'y a pas de limite.
Non, il n'y a pas de limite. Après, ça a été long à décoller. Cette année 2021 a été un peu une année blanche où je n'ai pas eu vraiment de clients, mais j'ai pu tester quand même mes services sur des amis, la famille. J'ai pu poser aussi les bases de mon entreprise, savoir à qui je voulais m'adresser, ma communication, prendre le temps de me faire connaître. Et puis 2022, ça a décollé et j'ai eu mes premiers clients.
Ah, super. Trop chouette. Bah, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe une prestation avec toi? Comment tu t'organises par rapport à son activité?
Ouais, comment ça fonctionne? Moi, je ne suis pas agence de voyage, donc je n'ai pas le droit de faire les réservations pour le compte de mes clients, mais je leur propose un accompagnement et une aide aux recherches pour créer leur voyage un peu sur mesure et adapté à eux, leurs envies, leur budget et leur famille. Moi, ma cible, c'est plutôt les voyages en famille. Voilà, je suis maman, donc j'adore aider aussi d'autres mamans à se projeter en voyage. Donc, la personne me contacte en premier lieu, soit sur Insta, par mail, via mon site internet. On échange par téléphone sur le projet, sur ce qu'ils ont envie, leur budget, etc. Et leur façon de voyager aussi, c'est important. Chaque personne ne voyage pas de la même façon ni pour les mêmes raisons. Et puis, je reviens vers eux avec le devis pour ma prestation et l'étude du budget. Est-ce que leur projet est faisable? Combien ça va leur coûter par rapport au prix du moment? Et après, si ça fonctionne, s'ils signent la prestation, eh bien, je m'occupe de faire toutes les recherches en lien avec leur voyage, les vols, l'itinéraire, l'hébergement, les activités. Et donc, on travaille main dans la main. Le but, c'est vraiment de... que le client soit acteur de la préparation de son voyage, mais sans toutes les parties un peu reloues, des recherches, fouiller sur Internet, trouver le blog avec les bonnes infos sur le pays, tout ça, c'est moi qui m'en charge. Et je suis là aussi pour répondre à leurs questions, leurs interrogations, soit sur le pays, soit en termes d'organisation, premier voyage avec un bébé, par exemple, ou avec des enfants, comment les occuper, des questions pratico-pratiques, en fait. Et voilà. Et après, le client a un petit carnet de voyage avant de partir à la maison avec toutes les infos, tout ce dont il a besoin sur place pour profiter de son voyage.
Ok. Moi, c'est canon. C'est super. Mmh. Et c'est vrai que, du coup, toi, le fait que... tu as voulu te lancer là-dedans, j'imagine que tu aimes voyager et que tu as voyagé, donc tu as sûrement l'expérience aussi derrière...
C'est ça, j'ai toujours beaucoup voyagé, seule, en couple, en famille. Et en fait, je suis partie du constat que souvent mes collègues me demandaient « Mais comment tu fais? Moi, je n'ose pas partir avec mes enfants. Je ne sais pas où chercher, où trouver les infos. Est-ce que tu peux m'aider ?» Donc, je me suis dit « Bon, il y a peut-être un truc à faire là-dedans. Et pourquoi pas aider d'autres personnes sur un sujet aussi cool que le voyage, quoi. »
Ah, c'est canon. Et comment toi, du coup, on va dire plutôt donc la partie de ton côté, on va dire, comment ça se passe, soit je sais pas, une journée ou une semaine type? Alors j'imagine que dans la vie d'une entrepreneur, t'as pas trop de journée type, mais est-ce que tu peux nous décrire un peu, voilà, toi maintenant, ton nouveau quotidien, on va dire, dans une journée type, par exemple?
Alors, une journée type, il n'y a pas vraiment de journée type, parce que on va dire plutôt une semaine type. Oui. Donc moi, je travaille sur des horaires entre guillemets de bureau, de 8h30 à 16h30, parce que je suis maman, donc je travaille sur cette période-là. Et en fait, la semaine va s'articuler autour des projets clients, des contacts clients, des appels prévus, des projets en cours, donc avec les recherches pour les projets ou les carnets à rédiger. Et à tout cela, s'ajoute tout ce qui fait la vie d'un entrepreneur, entre guillemets. Donc, la communication, préparer des posts Instagram, mettre à jour le site internet, de la comptabilité, Mais d'abord, en priorité, les clients. Je case tout ce que j'ai à faire pour les clients sur la semaine et les rendez-vous, les appels. Et puis, après, dans un second temps, je comble, entre guillemets, les trous avec ce que j'ai à faire pour mon entreprise.
Non, c'est canon. Qu'est-ce que tu préfères là, du coup, là, actuellement, dans ta nouvelle vie, on va dire, parce que ça fait 2 ans du coup que tu as une toute nouvelle vie après infirmière. Qu'est-ce que tu préfères là, comme ça
Moi, j'adore le relationnel avec les clients. C'est ce que j'aimais en tant qu'infirmière, c'était le relationnel. Mais c'est vrai que dans notre métier, on est souvent confronté à des situations plutôt dures ou dramatiques. des contextes pas faciles. Et je trouve que maintenant, on a de moins en moins de temps aussi de pouvoir apporter cet échange et des fois ce réconfort dont les patients ont besoin. Donc là, de parler de choses fun, cool, de voyage, c'est vraiment hyper épanouissant. Et puis le fait de travailler pour moi, c'est totalement différent, quoi. Alors, c'est bien et en même temps pas bien. C'est bien dans le sens où je fais ce que je veux, je travaille à l'heure que je veux, de la façon dont je veux. Mais aussi, si ça marche pas, c'est de ma faute. Je peux pas en vouloir à quelqu'un ou dire c'est le chef qui a pris cette décision et c'est nul, ça marche pas. Non, ouais. Ça sera de ma faute, quoi.
Globalement, oui, c'est sûr que après, c'est très responsabilisant en fait, aussi le fait d'être à ton compte. Pour le coup, tu te dis, si je bosse bien, je vais être récompensée. C'est vrai que si je fais rien de la semaine, si je bosse pas et je reste dans le canapé, c'est sûr qu'il va rien se passer. Mais au moins, c'est gratifiant de se dire, je fais des actions, donc je suis rémunérée à la hauteur de ce que je fais aussi. Et plus mes clients sont contents, plus j'ai des sourires, des remerciements, des messages positifs, etc. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est gratifiant. On se disait un petit peu juste avant l'interview, il y a pas mal d'infirmiers qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, dans toutes branches différentes d'ailleurs. Enfin, ça reste quand même dans l'humain, le relationnel, l'accompagnement, mais globalement, il y a une bonne partie d'infirmiers qui y pensent. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus fait peur ou freiné ou peut-être fait peur, et comment t'as réussi justement à passer le cap?
Alors, au début, ce qui me faisait très peur avant de me lancer ou même avant de penser tout court, c'était le fait de ne pas être crédible. Quand on est infirmière, souvent on se dit je ferai infirmière toute ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de toute façon. Donc il y a eu toute cette phase où je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, et même si je le fais, est-ce que les gens ils vont pas dire l'infirmière elle me vend des voyages, d'où elle vient, qui sait, donc cette phase là je l'ai solutionnée en me formant, en disant j'apporte une solution et puis une vraie réponse à ce syndrome un peu de légitimité de l'imposteur, quoi. Donc je suis partie avec des bonnes bases pour me lancer, et puis après ce qui m'a fait le plus peur, c'est la sécurité financière. Forcément, quand on passe d'un salaire fixe et plutôt confortable en tant que vacataire à des fois rien du tout au début, ça fait un petit peu peur. Donc pour ça, moi j'ai conservé des vacations pendant que je me suis lancée, et même toujours un petit peu actuellement. Donc au début je faisais 3 vacations par semaine et 2 jours sur mon entreprise. L'année dernière je suis passée à 2 vacations par semaine et 3 jours sur mon entreprise, et cette année je pense qu'il va falloir que j'arrête les vacations parce que je suis dans une phase de transition où j'ai plus de demandes, mais en même temps je n'arrive pas trop à développer les projets à côté, et donc il va falloir faire un choix, mais la sécurité financière, je pense que c'est ce qui fait le plus peur à tous, quoi. C'est ce qui revient souvent, hein.
J'avais posé la question justement de la transition. C'est toujours un moment qui est pas évident, le moment de la bascule, un petit peu de à quel moment je lâche mon métier d'infirmière, à quel moment je me lance à fond. Après, c'est vrai que toi, t'es vacataire, donc c'est pour le coup plus confortable. Enfin, c'est très relatif, mais c'est vrai que moi, pour l'avoir vécu aussi, j'étais aussi vacataire quand j'ai créé Charotka, et c'est vrai que c'est confortable parce qu'en fait, tu prends ce que tu veux prendre. Si tu veux pas travailler, tu travailles pas. Et si dans 2 mois, t'arrêtes complètement, mais que dans 6 mois t'as besoin de reprendre pendant 3-4 mois, c'est possible aussi. C'est ça qui est vraiment hyper confortable quand t'es infirmière, pour le coup.
C'est ça, c'est beaucoup plus souple en fait. Du coup, moi je choisis de travailler que les lundis, mardis par exemple, en tant qu'infirmière. Comme ça je sépare vraiment infirmière et mon entreprise, et la fin de la semaine sur l'entreprise. Et là je me suis engagée jusqu'au mois de mai, mais après si je veux arrêter, ne plus prendre de mission, c'est possible aussi. Voir me laisser le temps, et puis après, si dans 6 mois, comme tu dis, je dois reprendre des missions parce que c'est un mois un petit peu plus creux, et que dans le voyage on fonctionne aussi en saison, un peu comme dans la mode, donc un mois un petit peu plus creux, et je peux combler avec quelques vacations dans le mois et avoir toujours cette sécurité. On a quand même un métier infirmière où globalement on pourra toujours avoir du travail, même si on se plante, si on se plante, c'est même pas se planter, mais si ça fonctionne pas, ou si on est lassé, finalement c'est pas ce qu'on voulait faire, on peut reprendre et on trouvera toujours du travail et même apprendre le jour même, quoi. Ouais, signer un contrat le jour même, c'est possible maintenant.
Ouais. Donc, c'est clair. Et toi, du coup, en termes de saisonnalité, comment ça fonctionne le monde du voyage?
Et ben là, par exemple, il y a un gros pic sur le début de l'année avec la préparation des vacances d'été. Il va y avoir un petit pic en juin pour tout ce qui est préparation de la saison plutôt hiver ou automne. Après juillet-août, c'est assez calme en termes de demande de voyage, mais il y a tout ce qui est carnet, envoyé, tout ça. Mais en termes de contact client et de demande de voyage, c'est un petit peu plus calme. Et après, il y a un autre petit pic fin d'année pour l'année suivante.
Ok. Donc, ouais, tu as deux gros pics finalement, pic préparation de l'été et pic préparation de l'hiver. On a envie de partir au soleil.
C'est ça. De l'hiver, voire l'hiver suivant. Enfin, par exemple, souvent, il y a un petit pic octobre-novembre pour février, voire mars de l'année suivante.
Ok. Et toi, petite question un peu en plus, quels sont, je sais pas, les trois voyages que tu recommanderais le plus, ou les trois pays, ou trois destinations, ou deux, ou peu importe, qu'est-ce que tu voudrais recommander?
Alors moi, un gros coup de cœur sur l'Indonésie et Bali. Voilà, c'est vraiment mon pays coup de cœur, l'Indonésie et Bali particulièrement. Et puis après, en autre voyage, j'ai beaucoup aimé New York. Bon, ça, c'est un peu un incontournable. J'y suis allée trois fois et à chaque fois, je découvre des nouveaux trucs, des nouveaux endroits. Enfin, on ne s'ennuie jamais à New York. Et un autre pays que j'ai beaucoup aimé, c'est l'Équateur, okay, en Amérique du Sud. Voilà, très, très beau pays et des gens adorables.
Ok, canon. Bon, ça fait déjà un peu voyager de t'entendre.
C'est ça. C'est des pays lointains, mais maintenant qu'on est parents, on aime bien aussi faire tout ce qui est capitale et grandes villes européennes. Ouais. Très facile avec des enfants et super chouette à découvrir aussi.
Canon, trop chouette. Est-ce que, Ambre, tu as un dernier conseil ou quelque chose que tu aimerais transmettre aux infirmières, aux infirmiers qui nous écoutent?
Oser. Oser se lancer, oser aussi aller discuter avec des gens, poser des questions. Moi, j'aime beaucoup échanger. J'ai souvent des gens qui viennent me poser des questions sur ma reconversion, qu'ils soient infirmiers ou pas. Moi, j'aime beaucoup échanger et puis je suis passée par là, donc autant partager ce que j'ai un petit peu appris. Et puis, oser, ouais. En fait, s'il n'y a qu'en se lançant ou en osant au moins faire un bilan sur ce qu'on souhaite, qu'on peut savoir si c'est fait pour nous ou pas, et voilà. C'est le plus dur aussi comme conseil, mais
c'est vrai, ouais. Oser se lancer, et puis au pire, comme tu l'as dit avant, au pire on est infirmière, donc en fait on trouve facilement du boulot, et
c'est ça, au pire on rebondit et on est sur un métier où il y a de la demande partout et dans tous les secteurs. En plus, c'est même pas limité au secteur hospitalier, ou enfin voilà, il y a de la demande partout, donc au pire on rebondit et puis on reprend quelque chose, ouais. C'est pas un problème.
Bah écoute, merci beaucoup, Ambre. Comment on fait pour te trouver, pour te contacter, qu'est-ce que tu préfères comme moyen de communication?
Instagram, j'aime beaucoup discuter sur Instagram, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, Rêve de Voyage Travel Planner, avec plaisir d'échanger avec vous.
Ok, trop chouette. Bah merci beaucoup.
Merci à toi, Charlotte.
Belle continuation de ce projet qui fait déjà rêver, qui fait voyager, je trouve, de t'écouter, merci. De te suivre. Et puis merci pour ton partage en tout cas, et puis à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Salut.